Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En cette rentrée 2021, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il flotte dans l'air comme un air d'hésitation, comme si après cette grande crise que nous avons traversée, nous ressortions un peu titubant devant réapprendre à marcher, à vivre. Il faut dire que le choc pour beaucoup a été frontal, comme on dit. Alors pour nous aider en cette rentrée, côté couple et famille, à reprendre un pas plein de tendresse, de sagesse, voire de volupté, cette émission Vie de couple, vie de famille sur un tiercé gagnant, la joie, la bienveillance et la tempérance. Vie de couple, vie de famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jeudi. On est encore dans la rentrée, on va dire la rentrée c'est jusqu'à fin septembre. Autour du plateau, nos deux invités ou chroniqueurs habituels, Marie Binet, vous êtes conseillère conjugale et familiale, sexologue et auteure de multiples ouvrages. Celui dont on parlera aujourd'hui, c'est Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bernard Coulot, vous êtes psychologue, thérapeute familial, expert auprès de la cour d'appel de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Je cherchais un livre que vous aviez publié, vous voyez, mais
il y en a pas.
J'avais beau continuer la ligne, je ne trouvais pas.
Il n'y en a pas.
Alors, comme à chaque fois, pour ces émissions Vie de couple, Vie de famille, c'est un peu notre émission, on va dire, psycho, hein, toute proportion gardée, de Vivante Église. Je m'amuse, façon de parler, à essayer de trouver des sondages. Voilà, c'est peut-être un travers journalistique, mais les sondages, en général, je trouve ça intéressant. Et là, j'ai essayé d'en trouver donc, sur le moral des Français en cette rentrée. J'ai eu du mal, il faut le dire. Alors, j'ai peut-être pas bien cherché. J'en ai trouvé un pour commencer. Celui-là, je ne voulais pas donner. Et peut-être ça va nous aider à prendre un peu la température dans vos cabinets. Alors, ce n'est pas vraiment de la rentrée. Hein, ça date du 6 juin dernier, qui disait que les Français allaient beaucoup mieux, qu'ils relevaient la tête, ils reprenaient goût à la vie, pouvant vivre plus facilement. Ils donnent un certain nombre de, on va dire d'éléments qui peuvent améliorer leur quotidien, revoir mes amis, sortir au restaurant, voyager, avoir une bonne ambiance au travail, me dépenser, faire du sport, etc. Mais il y avait aussi ce chiffre, 64% des Français touchés dans leur santé, santé mentale et santé physique. Est-ce que vous avez l'impression, Marie Binet, que de fait, il y a encore quand même quelques répliques de ce choc frontal qu'a été cette pandémie ?
Alors, il est évident que les Français ont repris le moral. Ça, moi, je le constate, en tout cas, en cette rentrée-là, depuis septembre, dans mon cabinet. Il y a même des couples qui ont vraiment profité de l'été et qui ont pu redonner un bon élan et un bon oxygène à leur relation.
Vous disiez même que vous... Pardon de vous couper tout de suite, mais vous aviez moins de clients.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'urgences et d'appels qu'il y en a eu au printemps dernier. Au printemps dernier, ben, vraiment, les personnes, aussi bien individuellement qu'en couple, ont décompensé et allaient très mal. Et là, vont beaucoup mieux. Donc, tant mieux. Et puis, quand même, on est en train de reprendre une vie à peu près normale. Donc, je pense que chacun a besoin de se remettre dans cette vie normale avec le travail en distanciel qui est réduit à nouveau, le fait que tout le monde reprennent les chemins des universités, des écoles, etc., que les activités reprennent. Donc je pense qu'il y a besoin de se donner le temps de reprendre ce rythme-là et même de se réorganiser peut-être autrement parce que je pense qu'il y a eu un grand travail de réflexion, aussi bien individuellement qu'en couple ou en famille, sur le sens du travail, le sens de la vie à deux, le sens de la vie en famille ou avec les amis. Et il y a un besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc en même temps, il y a un nouvel oxygène qui est là, ça c'est évident, et tant mieux, qui fait du bien. En même temps, tout n'est pas complètement
digéré.
Et en effet, le moral a été, enfin la santé mentale a été réellement atteinte. Et ça, je pense qu'il y a eu suffisamment d'études, même dans nos syndicats professionnels, qui l'ont montré. Et il y a besoin de temps pour digérer ça et se remettre en santé psychologique.
Bernard Coulot, est-ce que vous voyez des gens un peu titubants dans votre cabinet ?
Disons que...
Est-ce que c'est déjà la table de la résilience ?
Oui, alors peut-être qu'on peut parler de résilience parce qu'on est tous passés par cette crise sanitaire qui a été, pour beaucoup d'entre nous, une épreuve. Et comme toute épreuve, parfois ça a secoué certains d'entre nous et nous a mis en difficulté. D'autres ont pu aussi prendre cette période-là comme une pause nécessaire, imposée par les réalités du confinement. Et comme le disait Marie tout à l'heure, tout d'un coup être contraint de prendre du temps pour penser, avec un E, et essayer de réfléchir au sens de ma vie, comment je suis, moi, dans
donc
mon propre équilibre.
Vous en voyez déjà les effets dans votre cabinet ou pas encore ?
Oui, je crois réellement que des personnes ont pu aussi parvenir à dépasser cette épreuve et, comme vous le pointiez, vivre une forme de résilience après la crise. Certains ont été réellement ébranlés. Ce que je crois, pour en revenir au moral des Français et l'étude que vous nous aviez adressée il y a quelques jours, Emmanuel, il y a une sorte de moral des Français à court terme. C'est-à-dire que là, effectivement, et vous l'indiquiez dans cette étude...
On respire.
Oui, c'est ça. Parce que la vie normale est retrouvée, donc peut-être une aspiration à consommer, c'est comme ça que c'était dit. Par contre, je crois que dans le long terme, dans l'avenir à plus long terme, cette crise-là, cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus et qui était absolument imprévisible, en tout cas pour moi, je n'imaginais pas qu'un virus comme ça puisse mettre à mal notre vie, notre économie. Et du coup, ça a installé quand même, je crois, une sorte d'inquiétude ou de crainte pour le grand avenir. On sait aujourd'hui qu'un machin comme ça peut nous tomber dessus et nous mettre à mal.
Alors l'autre étude, j'étais pas forcément très fier de vous la faire suivre. Hein. C'est donc une étude d'Odoxa pour entre autres le magazine Challenge et BFM Business. C'est pas forcément les médias, on va dire, que je préfère. Et c'était le moral des Français. Mais alors rapidement, leur moral en fait était signifié en termes de consommation. Ils avaient le moral parce qu'ils pensaient que la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat allait être meilleur, voire même le signe qu'ils avaient le moral, c'est qu'ils allaient dépenser davantage. Bon, ça fait partie des indicateurs, mais c'est vrai que cela, on s'en passerait bien après une telle crise. On se dit que là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, je voulais aussi vous demander comment mettre un petit peu de... continuer à mettre un peu de vacances dans la rentrée. Pour essayer de ne pas avoir des vies trop séquencées, on entend des gens, quand les deux sont actifs, hein, qui disent le différentiel vacances-travail, c'est quand même la première semaine, les deux premières semaines, c'est un peu violent. Alors j'ai trouvé dans Cosmopolitan, ça va vous faire sourire, quelques astuces. Alors avoir un éventail dans son sac, aller au travail en tongs, aller au travail en vélo, arriver en retard au boulot, faire des apéros en terrasse. Plus sérieusement, Marie, qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme bonne idée ou petite astuce pour mettre un peu de vacances dans le quotidien ?
Alors, je reprends ce que vous dites, faire des pauses en terrasse quand on est au travail. Les jeunes générations aujourd'hui qui sont entrepreneurs, on met en place ça en fait, avec un peu ce que Google ou autre aux États-Unis avait insufflé, c'est-à-dire d'avoir sur le lieu de travail des espaces de loisirs, des espaces de détente, et ça fonctionne bien. C'est-à-dire s'autoriser à des pauses pendant la journée de travail. Donc soit dans l'entreprise, c'est encouragé, soit oser le faire soi-même. C'est pas juste aller fumer sa cigarette dehors, c'est vraiment aller se promener pendant un quart d'heure, 20 minutes.
C'est-à-dire avoir des vrais lieux de détente ou qui sont pensés comme tels.
Exactement,
sur le lieu de travail.
Sur le lieu de travail, et sinon se les créer soi, c'est-à-dire vraiment sortir de son bureau, sortir de son entreprise et aller se promener, se reconnecter à l'air, à la nature, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Voilà, c'est vrai temps de pause pour être en mouvement et en même temps avoir cette respiration. Ça peut être s'autoriser à faire une mini-sieste. On sait qu'il faut 20 minutes de sieste dans la journée pour récupérer réellement, surtout si on a eu un mauvais sommeil ou autre. Bon voilà, ça fonctionne bien. Ensuite, des temps de silence. Régulièrement, on a 24 heures dans une journée et les personnes se plaignent, je n'ai jamais le temps de me poser. Et souvent, imaginez rien que 5 minutes s'asseoir en silence et inconcevable pour eux. Donc, s'obliger à se prendre 5 minutes. Je m'assois, je ne fais rien. Je lâche mon téléphone, je ne vais pas regarder Facebook, rien du tout. Je m'assois, je me mets en silence 5 minutes. Et souvent, quand ces 5 minutes, on les apprécie, on s'aperçoit qu'on déborde sur 10. Donc, c'est prendre une bonne habitude. C'est introduire des habitudes de détente, de pause dans sa journée. Et puis après, c'est le soir pareil. Au lieu de se réfugier sur ses écrans, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment... me détendre. Alors, pour certains, c'est l'occasion de sortir son chien. Pour d'autres, ça va être l'occasion de prendre un peu de temps avec ses enfants ou son conjoint pour des moments tranquilles, des moments agréables. On peut rire ensemble. En fait, les gens oublient de rire, oublient de mettre de l'humour, oublient de... Voilà. Mais je réintroduis. Alors, ça peut être l'occasion de faire un jeu.
Alors, on va s'arrêter à 4. Donc, 4 astuces de Marie-Haute, c'est se prendre des temps de récréation, même dans le travail, hein, quitte à aller se balader pendant 10 minutes, si je résume. Le deuxième, c'est faire la sieste. Le troisième, c'est mettre un peu de silence dans sa journée. Et le soir, c'est penser à se détendre, seul ou en couple ou en famille. Bernard, je vous en donne pas 4, mais si vous en aviez les deux, ça serait quoi ?
J'aurais peut-être du mal, mais effectivement, l'idée...
Elle vous en a peut-être piqué un ou deux.
Elle m'en a piqué. Mais effectivement, j'aimais bien votre formule, Emmanuel, mettre un peu de vacances dans notre quotidien. Vacances, c'est débrancher. C'est débrancher avec mes préoccupations professionnelles, familiales et autres. C'est débrancher.
Alors, vos astuces, quelles sont-elles, du coup ?
Alors, pour moi, c'est simple, mais quand je sors de chez moi, j'ai la chance d'avoir un peu de jardin, un peu de nature, mais c'est être dans l'instant. C'est-à-dire que quand je ferme la porte de chez moi, déjà, écouter le bruit des feuilles quand il y a du vent, le vent qui fait bruisser les feuilles, mais écouter les oiseaux, sentir l'air, bref, être connecté avec l'environnement et, quand on peut, la nature. J'ai reçu ces derniers temps deux, trois femmes qui m'ont dit un peu la même chose et ça m'a plutôt épaté. Je suis dans un coin du Tarn et il y a une forêt pas très loin. Et les trois m'ont dit qu'elles avaient pris l'habitude d'aller se balader en forêt, ne serait-ce que demi-heure, trois quarts d'heure. Et les trois m'ont dit la même chose alors qu'elles ne se connaissent pas, pieds nus, sur les chemins dans cette forêt. Et elles me disent, alors une dit aussi... se rapprocher des arbres.
On appelle ça la marche de pleine conscience.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'idée d'être connecté avec son corps et que le corps soit connecté avec la nature. Alors bien évidemment, on ne peut peut-être pas faire ça tous les jours parce qu'on a des vies plutôt bousculées, mais l'idée c'est de profiter de chaque instant et de trouver, comme le disait Marie, des moments, chacun les siens. Hein. Il n'y a pas très longtemps, je rencontrais une collègue psychiatre qui me disait « Je me suis mis au point de croix. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est ce truc de grand-mère ?» Et elle me dit, mais tu te rends pas compte, t'es bête. Quand je compte mes points en faisant des points de croix, j'oublie mon boulot, les patients, mon mari, mes enfants. Et c'est ça, c'est parvenir dans le quotidien à avoir des moments de pause où j'oublie le reste.
Bon, alors deux, donc le point de croix et la balade en forêt.
Pourquoi pas.
Alors, ce triptyque que vous nous proposez en cette rentrée, on va l'introduire et puis après on prendra le temps. La joie, la bienveillance... bienveillance, bonté, on va choisir la bienveillance et puis peut-être qu'on parlera de la bonté après. Donc joie, bienveillance, tempérance. Allez Bernard, joie, bienveillance, vous nous le présentez, tempérance, ça sera Marie-Aude.
Alors la joie, je veux dire que quand vous m'avez proposé ce titre, je suis allé regarder le Littré, parce que moi je suis un ancien et du coup j'ai des références plutôt anciennes. Et alors ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé une définition, pour définir la joie, il est indiqué « plaisir de l'âme, sentiment de bonheur intense ». Et ça m'a beaucoup plu. L'idée, alors bien évidemment, l'âme, qu'est-ce que c'est ce machin, entre guillemets, si je suis juste psy, je me dis que l'âme, ça doit être cette chimie, cette interaction entre le corps, l'intelligence et les émotions et les affects. Et sûrement que parvenir à la joie, le plaisir de l'âme, c'est quand cette interaction est cohérente, en cohésion, que je suis juste et vrai avec moi. Si je suis croyant, on peut sûrement rajouter la spiritualité et la foi. Mais quand on arrive à une cohésion, cohérence entre ces éléments-là, je pense qu'on peut parvenir à vivre ce que dit cette définition, le plaisir de l'âme ou le plaisir intense,
alors,
je crois.
Si on ordonne autrement, tempérance, comment vous présenteriez Marie-Aude ? Et puis pourquoi vous y avez pensé ? Sachant qu'on prendra le temps d'en parler davantage après. Hein.
Ouais, la tempérance, en fait, est une vertu.
Cardinal.
Voilà, mais qui a été aussi développé par les grands philosophes grecs. Hein, on la retrouve chez Socrate, Platon et Aristote. Saint Thomas d'Aquin en a beaucoup parlé hein, dans nos grands docteurs de l'Église. Mais la tempérance est l'art de la mesure. Ce qui veut dire que c'est dans notre quotidien comment nous pouvons vivre ce que nous avons à vivre avec humilité, en tenant compte de soi et des autres. C'est-à-dire que ça nous éloigne d'une forme d'égocentrisme où on va aller que dans le plaisir et des plaisirs à l'excès. Ce qui permet d'amener, en effet je le développerai un peu plus tout à l'heure, mais de développer d'autres qualités qui sont humaines et aussi bien sûr spirituelles, qui vont permettre de maintenir le lien avec l'autre. Et là, ça ouvre à la joie en fait. Parce que la joie demande l'ouverture. Et la tempérance va permettre cette ouverture. C'est vraiment une des vertus qui ouvre le plus en fait.
Allez, et puis bienveillance, c'est moi qui vais donner la définition que j'ai trouvée. Cette fois, c'était dans le Larousse. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Et les synonymes sont la bénignité, la bonté, la cordialité, la débonnairité, la gentillesse et la sympathie. On va faire une première pause et on va en parler plus longuement et aussi essayer d'expliquer comment on peut essayer d'en vivre.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour rappel, avec autour du plateau Marie Binet, conseillère conjugale et familiale, sexologue, auteur de Grandir en couple paru aux éditions des Béatitudes, et Bernard Coulot qui est psychologue, thérapeute familial et expert auprès de la cour d'appel de Toulouse. On a donc choisi un triptyque en cette rentrée, essayer de cultiver la joie, la bienveillance et la bonté. Alors, on va recommencer avec la bienveillance pour essayer de la définir peut-être un petit peu plus. Et puis, vous allez nous dire, à votre avis, comment est-ce qu'on peut essayer d'en vivre. Ce qu'on entend peut-être derrière tout ça, c'est que c'est bête à dire, hein, peut-être, mais c'est aussi une décision que d'être joyeux, bienveillant et tempérant, Marie.
Oui, c'est vraiment une décision et c'est un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, je pense qu'il faut aussi être indulgent vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la tempérance est une vertu. Il y a vraiment un chemin à faire. Et ce chemin, il va être en fonction de la personnalité qu'on a, de l'histoire que l'on a, des relations dans lesquelles on est. Et ce sont Ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas des obligations. C'est un savoir-être. C'est-à-dire qu'on peut vivre la bienveillance, la joie et la tempérance dans son être. Et parce que l'on peut le vivre dans son être, on va pouvoir le rayonner et le partager avec les autres. Et c'est pour ça que c'est un chemin. On ne peut pas s'obliger à être tempérant. On va être en chemin pour le devenir, pour l'être. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cet accueil de ces savoir-être pour se dire que pour soi, ce n'est pas toujours facile, et donc pour l'autre non plus. Et quand on a envie de les vivre en couple et en famille, c'est de se dire, déjà, au lieu de l'attendre de l'autre, comment moi je me mets en chemin, et parce que je me mets en chemin, je vais inviter l'autre à s'y mettre aussi.
Vous voulez réagir, Bernard Coulot? Parce qu'en général, je vous passe toujours la balle après Marie-Aude, donc une fois sur deux, vous pouvez facilement dire, je suis d'accord avec Marie-Aude.
C'est ça, comme elle parle très très bien,
alors,
et qu'elle
du coup,
dit des choses très sensées.
Je vais vous poser une autre question.
L'idée quand même du chemin me plaît beaucoup dans ce que dit Marie, sachant que ce chemin, peut-être qu'au départ, il peut y avoir une volonté, une décision, mais ce chemin, il n'est jamais fini. Ce chemin, il passe aussi par des coups de mou. Et je crois que quand on est malgré tout dans une sorte d'indulgence, comme le disait Marie vis-à-vis de soi, on accueille aussi les coups de mou, les moments difficiles. Et je crois que c'est en les dépassant aussi qu'on apprend sur soi, qu'on apprend sur l'autre, et que finalement le chemin continue. Mais il n'est jamais acquis et il est toujours en travail tous les jours finalement.
Alors, si on commence par la bienveillance, je vais redonner la définition que j'ai trouvée, et puis je vais la mettre en regard d'une autre, qui est donc celle de la définition de la bonté. Bienveillance, dit le Larousse, disposition d'esprit, inclination à la compréhension, à l'indulgence envers autrui, et bonté, disposition de quelqu'un à être sensible, compatissant et charitable. Déjà, on voit une différence. Les synonymes pour bonté, c'est plutôt altruisme, charité, compassion, indulgence, miséricorde, pitié, quand la bienveillance, c'est la bonté, la débonnarité, la gentillesse ou la sympathie. Marie-Aude, vous teniez peut-être à préciser des choses autour de la bienveillance.
Oui, ça fait partie des termes aujourd'hui qu'on utilise un peu pour tout. Et justement, comme vous le reprécisez dans vos définitions, c'est un terme qui invite à la bonté. En fait, c'est un premier pas vers l'autre. Et c'est pour ça que souvent, on parle de bienveillance toujours en mettant une forme de distance. Je suis bienveillant à l'autre, mais je ne me fais pas trop proche. Je reste suffisamment loin pour être gentil avec lui sans m'y investir. Alors que dans la bonté, on va être dans « je me donne ». Et c'est pour ça que ce terme de bienveillance, en tout cas en tant que professionnel, on l'utilise beaucoup. Nous sommes amenés à être bienveillants avec nos patients. Nous pouvons aussi être bons. Et en fait, c'est aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où on cherche peut-être trop à maintenir des distances. Alors en plus, on vient de passer une période de distanciel. Et je me dis qu'on a peut-être un chemin aujourd'hui à faire de se dire comment on oserait passer de la bienveillance à la bonté. Déjà, comment je suis bienveillant vis-à-vis de moi, et comment je m'ouvre à moi-même, comment je suis gentil avec moi, comment j'ai ce regard positif sur moi, ensuite sur l'autre, et du coup en
et plus
étant
profondément, comment je suis bon avec moi-même.
Exactement,
donc,
comment je suis bon, c'est-à-dire
compatissant, miséricordieux.
Voilà, comment je m'aime. Et donc, comment je peux aimer l'autre? Et ça va passer par le pardon, par... voilà. En tout cas, c'est un chemin. Et la bienveillance est déjà cette première étape, qui n'est pas si simple que ça. Ça n'est pas une fin en soi, la bienveillance. C'est une des étapes pour s'ouvrir.
Alors, on parlera après d'un ouvrage qu'on a souvent cité à cette antenne, « Cessez d'être gentil, soyez vrai », c'est de Thomas d'Azimbourg. C'est comme ça qu'on prononce, Thomas d'Azimbourg, oui. Si on continue un petit peu dans les définitions, la joie, qu'est-ce que vous mettriez, Bernard, derrière ce mot? Vous vouliez, je crois, nous parler aussi d'un livre, « L'art de la joie », comment ça s'appelle, Goliarda Sapienza.
C'est ça.
Voilà, c'est un roman italien.
Oui.
Comment vous la préciseriez, la joie? Alors moi, j'ai trouvé un autre livre, c'est « La joie » de Bernanos. Je me suis souvenu que je l'avais sur une étagère et que je l'avais parcouru. Chantal de Clergerie, qui est une jeune fille au milieu d'une famille, on va dire, à problème, un père soucieux et carriériste, une mère murée dans le silence et d'autres difficultés autour d'elle. Et puis elle, elle rayonne d'une joie et d'une fraîcheur. Derrière ça, je me suis dit, la joie, c'est, comment dire, la joie est possible, même dans l'adversité, même au cœur de la difficulté. Ça paraît peut-être un peu bateau. En tout cas, c'est ce que vient illustrer, je crois, ce roman de Bernanos.
Oui, mais qui rejoint sûrement ce bouquin que vous citiez avant, qui s'appelle « L'art de la joie ». La joie, c'est sûrement, vous parliez de rayonnement, c'est parvenir à rayonner, peut-être qu'on pourrait dire à rester solaire, malgré les difficultés et malgré les épreuves. Mais ceci dit, ça n'est jamais acquis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on n'est jamais sûr. On est sur un fil, réellement, dans nos vies aujourd'hui. Et je crois que l'idée, c'est de tendre vers la joie, mais ça se décrète certainement peut-être à un moment donné de nos vies. Il y a peut-être l'idée de la volonté au départ, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un chemin de chaque jour qui nécessite, parce que tout à l'heure on parlait de bienveillance, sans être égocentré et dans une forme d'égoïsme, n'empêche que je crois que la bienveillance à l'égard de l'autre, elle doit d'abord être un chemin en soi, un travail d'introspection.
Qu'est-ce que vous retirez de ce roman, L'art de la joie ? Donc l'histoire, on peut la dire en deux mots. Hein.
Oui.
C'est le roman d'une vie, alors même si c'est une fiction, hein, mm-hmm. de Modesta, qui est un personnage donc, né le 1er janvier 1900 sur les pentes de l'Etna en Sicile, et qui malgré une enfance, on va dire, plus que difficile, trouve en fait un chemin de liberté au milieu de son existence, c'est ça, et de joie.
Oui, c'est ça. Un chemin de liberté, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que parvenir à rester libre malgré les drames et malgré les épreuves, parce que ce roman qui, comme vous le disiez, est une fiction, même s'il est un peu lié à la biographie d'une femme, n'empêche qu'on voit bien que son histoire a été vraiment éprouvante à bien des moments de sa vie, mais elle a réussi à garder une certaine liberté, c'est-à-dire une certaine distance par rapport aux événements et aux drames, parvenir à être malgré tout dans une certaine joie vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des autres. Et c'est en ce sens où ce roman, l'art, je crois que c'est un art, oui, mais ça se jardine, ça se cultive sûrement, et c'est un travail de tous les jours.
Alors, on pourrait passer beaucoup de temps hein, à définir ces mots. Vous vouliez, on l'a entendu, hein, nous inciter donc à emprunter ce chemin, on l'a bien compris, de ce triptyque, joie, bienveillance, tempérance. Vous vouliez nous parler maintenant, travail sur soi, se dépiéger, richesse de la différence. Alors, travail sur soi, vous en parlez à chaque fois, on se dit que c'est un peu le boulot d'un psy que de parler de ça. Je voulais, à l'occasion de cette rentrée, Marie, que vous nous vous mettiez des mots derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, vous voyez, j'ai fait l'effort vous me direz, je suis payé pour ça, hein, mais je suis allé sur YouTube et j'ai tapé tout simplement « qu'est-ce qu'une psychothérapie ?» voilà, ou « qu'est-ce qu'un travail sur soi ?» Ben, j'ai eu bien du mal à trouver. Et alors, les rares vidéos que j'ai trouvées, c'est les psys qui donnent l'impression qu'en fait, le travail sur soi psychologique englobe toute la vie. C'est-à-dire, la psychologie, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ce qu'on apprend, ce qu'on pense, ce qu'on désire, ce qu'on décide. Ça peut faire un peu peur, du coup. Alors, quelles sont un peu, on va dire, les bornes, on va dire, du travail sur soi, soit ce qu'on vient y travailler.
Alors, je pense que le travail sur soi, d'abord, doit englober la personne dans sa totalité, c'est-à-dire sa dimension physique, psychologique, affective, spirituelle. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et quand on est dans la psychologie pure, on va oublier certaines dimensions de la personne. Et c'est toujours le risque de faire que de la psychothérapie ou que de faire du développement personnel. Aujourd'hui, le développement personnel peut être un piège aussi. Donc quand on dit dépiéger, c'est ne pas rester enfermé dans une façon de travailler sur soi. Alors d'abord, le travail sur soi, je dirais que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Lorsqu'un enfant est à l'école et qu'il apprend de nouvelles choses, il apprend sur le monde qui l'entoure, il apprend sur lui-même, c'est un travail sur lui et sur son rapport au monde. Mais en fait, adulte, on continue de le faire.
Oui, il ne le conscientise pas forcément.
Non, il ne le conscientise pas. En tout cas, adulte, nous avons notre raison qui nous permet de le conscientiser, nos expériences qui nous permettent d'en faire le constat aussi. Donc le travail sur soi, en fait, on n'est pas obligé de faire une psychothérapie, on n'est pas obligé d'aller voir un psy pour ça. On peut très bien le faire par par soi-même, on peut le faire en étant accompagné spirituellement, on peut le faire dans une recherche, dans une quête de sens.
Donc c'est apprendre à être attentif à son état physique, psychologique, émotionnel, spirituel, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, et donc c'est grandir en fait. Le travail sur soi, c'est un travail, c'est toujours le chemin, hein. C'est un travail... je dirais, alors en plus on dit travail, ça a un côté un peu effort, oui il y a des efforts mais il n'y a pas que des efforts, il y a de la joie justement, enfin, c'est formidable de pouvoir avoir un peu de recul sur sa vie, de se dire waouh, ce chemin que j'ai parcouru, ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, sur la vie, et c'est aussi un émerveillement. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le faire tout le temps avec quelqu'un, on peut aussi constater par soi-même, avoir de la gratitude vis-à-vis de soi-même, ce travail aussi de ou ce chemin de pardon, de se dire bon bah voilà, j'ai fait ça dans ma vie, c'était pas top, mais bon voilà, j'ai continué à avancer. C'est la résilience aussi par rapport à des épreuves que l'on a vécues, et voilà, c'est ce devenir. Je suis un être en devenir, j'accepte de l'être et donc je grandis. Et parfois on peut avoir besoin d'un tiers, mais pas toujours, on peut aussi le faire seul, on a une intelligence pour ça.
Bernard Coulot, se dépiéger, vous vouliez nous parler de ce mot, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que...
C'est un mot de psy, se dépiéger ou...
Non, non. C'est un mot qu'utilise Thomas d'Ansembourg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Je ne l'avais pas en moi, ce mot, avant de lire ce livre, mais ça me va bien. C'est l'idée que... le travail sur soi, c'est sûrement une introspection que l'on peut faire, certes, dans la rencontre avec un psy, avec un prêtre, avec qui que ce soit, qui me permettent de me poser et de réfléchir.
Mais on sort de quel piège ? Ça veut dire
alors,
quoi ?
se dépiéger, c'est sûrement parvenir à questionner mes pensées habituelles que peut-être je n'interroge plus trop et qui sont comme des habitudes de pensée, des réflexes de pensée.
Vous pouvez prendre un exemple ?
Mais en tout cas, quand moi j'utilise le terme de me dépiéger, ou quand je le pense avec ce mot-là, c'est parce que dans mon cabinet, les gens que je reçois souvent viennent travailler leur lien à leur propre mère, leur lien à leur propre père. Bref, finalement, tout ce que l'on a en soi, dans nos valises, je dirais, psychiques, et que l'on a appris, intégré, inconsciemment, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre culture familiale, dans notre famille d'origine. Et on est tellement pétri par ces habitudes de pensée.
C'est ce qu'on appelle les fausses croyances, peut-être aussi, les fausses solutions qu'on a l'habitude d'avoir, des comportements un peu systématiques ou instinctifs.
Peut-être. En tout cas, il vient un temps dans nos vies... alors peut-être que c'est parce qu'on a une épreuve à traverser, effectivement ça nous bouleverse, et il faut bien qu'on s'en remette et que du coup on réfléchisse. Ça peut être aussi, parfois on parle de la quarantaine, de la crise du milieu de vie, etc. etc. C'est-à-dire des moments clés où je suis en quelque sorte amené à me questionner sur ma vie, sur le lien que j'ai avec ma mère, mon père, sur qui il a été ce père, qui elle a été cette mère, qu'est-ce que je reprends à mon propre compte sans m'en rendre compte inconsciemment et que je dois conscientiser. Peut-être aussi avoir de l'indulgence parfois avec ma mère et mon père, parce que j'entends beaucoup de gens qui ont beaucoup d'aigreur parfois, et je crois que cette aigreur-là, elle nous met pas toujours en joie, et sûrement qu'il faut parvenir à comprendre pourquoi ma mère a été comme ça, pourquoi mon père a été comme ça, comprendre leur histoire à eux, déjà aussi à elles, et peut-être parvenir à une forme d'indulgence aussi, et mieux savoir qui je veux être à partir de ce que l'on m'a fait. C'est ce que disait, je crois, Jean-Paul Sartre dans une pièce de théâtre qui s'appelle La Nausée. L'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Et c'est bien là la place du sujet, de parvenir à en faire quelque chose qui me rende plutôt heureux dans la joie.
Allez, on va garder la richesse de la différence pour la suite, parce que ce qu'on entend derrière ce que vous dites, c'est qu'on commence peut-être par soi-même, mais évidemment en vue de la relation avec l'autre. C'est ce que vous avez précisé, Marie-Aude, particulièrement à propos de la tempérance. Ça sera l'occasion d'y revenir un petit peu.
présence sur le plateau du Larzac 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour ceux qui, par hasard, nous prendront en cours de route autour du plateau Marie Binet, conseillère conjugale, familiale et sexologue, et Bernard Coulot, psychologue, thérapeute familial, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Alors, les autres, qui ne sont pas forcément un enfer, puisqu'on a parlé de Jean-Paul Sartre. Pourquoi vous, enfin Marie-Aude, allez, on va reprendre plutôt sur la tempérance, parce que ce qu'on peut reprocher parfois aux émissions un peu psycho ou voilà, aux professionnels que vous êtes ou à l'air du temps, c'est de trop nous centrer sur nous-mêmes. Vous pouvez revenir sur ce que vous disiez sur la tempérance, c'est-à-dire que la tempérance qu'on entend, c'est que c'est comme une manière d'abord de mettre de l'espace entre deux personnes. Enfin entre nous et nos désirs, mais du coup par là même entre nous et les autres aussi quelque part.
Alors je dirais pas mettre de la distance, je dirais que la tempérance est vraiment en effet une façon d'assagir ce qui peut en nous être sous forme d'excès, d'impulsivité, et d'ailleurs saint Thomas d'Aquin dit bien que c'est d'abord un travail sur l'humilité. On travaille sur le premier péché qui est celui de l'orgueil. Et par cette humilité, je peux accueillir mes désirs et du coup les tempérer, ces désirs. Ça ne veut pas dire les annuler, mais les tempérer. Ce qui, dans une vie de couple, amène à la chasteté, par exemple.
Je veux juste citer une phrase que j'avais trouvée intéressante et qui prolonge ce que vous dites. La tempérance est cette protection et ce refuge qui nous permet de maintenir l'équilibre nécessaire pour aider les autres à être heureux.
Exactement. Donc c'est pour ça que c'est d'abord, je peux tempérer ce qui se passe en moi, et du coup j'accueille mieux les autres, je peux mieux être à leur écoute, être dans une harmonie relationnelle. Mais ça demande déjà d'être dans une harmonie vis-à-vis de soi. Donc la tempérance, elle amène à calmer ses colères, elle amène à être sur un travail de continence qui peut toucher l'alimentation. Au lieu de manger une tablette de chocolat par jour, je prendrais que 2 carrés ou 4 carrés. Enfin voilà, il y a tout ce qui va être une disposition intérieure pour harmoniser ce qui se passe en soi. Et suivant la personnalité qu'on a, c'est un chemin plus ou moins facile, hein. Ça va amener à travailler sur la pudeur, à travailler sur la curiosité, l'impulsivité d'action. Et après, il y a tous les excès concernant, bien sûr, le sexe, la luxure dans la consommation, vous en parliez tout à l'heure en introduction. Donc vraiment, c'est très très complet, la tempérance. Et dans la relation à l'autre, ça permet, pour ça que je reprends le mot distance, c'est pas mettre de la distance, c'est laisser de la place à l'autre. Donc je prends ma place, je laisse la place à l'autre, et on peut être en communication, en relation, de manière apaisée. Ça amène la paix. Et quand on est dans la paix, on accueille davantage la joie, et c'est beaucoup plus facile d'être dans la bienveillance aussi, dans l'acceptation de ce que je suis, de qui je suis et de qui est l'autre.
Justement, Bernard Coulot, vous teniez à insister aussi sur la richesse de la différence, c'est-à-dire ce qu'on entend derrière, en tout cas cette proposition, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que l'art de cultiver la joie, la bienveillance ou la tempérance, c'est aussi une forme de disposition intérieure qui est de se dire l'autre, même s'il est différent et qu'il est difficile parfois de vivre avec lui, c'est d'abord une bonne nouvelle, c'est ça ?
Oui, parce que pour moi, la richesse, ce sont les différences et pas de la même chose. Tout à l'heure, quand on parlait de se dépiéger peut-être des modèles parentaux, c'est aussi oser être autre que mon père, oser être autre que ma mère, et je crois que ça commence par cela, ce travail-là. Accepter aussi que mes enfants soient autres que ce que je voudrais qu'ils soient, dans mon couple, ou dans nos couples, accepter que mon compagnon, ma compagne, soit différente de ce que je voudrais qu'elle soit, c'est un travail en permanence dans nos liens aux autres, d'accepter la différence, et je crois que ça nécessite...
En quoi c'est d'abord une bonne nouvelle que l'autre soit différent ? Parce que dans le quotidien, c'est en général plutôt source de difficultés.
C'est source de tension, sûrement. mais ce sont de belles tensions, à condition bien évidemment que j'accepte déjà d'être plutôt vrai avec moi-même et que j'accepte que l'autre le soit aussi. Finalement, je crois que il est absolument nécessaire, comme on le disait tout à l'heure, d'être un peu en cohérence déjà en soi et finalement d'inviter l'autre à l'être aussi et d'accepter qu'on n'ait pas le même avis sur tel ou tel aspect ou point, que l'on soit différent, qu'on ait des réactions différentes. Et c'est là où la tempérance est intéressante aussi, parce que c'est l'idée d'être dans la mesure, pas dans la distance, mais dans le recul, c'est-à-dire dans la capacité, dans le même temps que je vis, que je pense.
À marier les différences, quelque part.
Oui. Et d'interroger comment ça se fait que je réagisse ainsi, comment ça se fait que je pense ainsi, d'écouter en soi et d'écouter l'autre.
Bernard Coulot, vous vouliez réagir, Marie ?
Oui, parce qu'en fait, on parle beaucoup de mettre de la distance pour se protéger, pour protéger l'autre, etc. J'insiste là-dessus souvent chez les couples qui peuvent être quelquefois trop fusionnels ou trop attendre que l'autre soit d'accord avec eux et que tout soit harmonieux en permanence. Je leur dis, prenez un peu de recul. Donc, prendre du recul, c'est mettre de la distance, mais pas pour qu'il y ait, pas pour rejeter l'autre, pas pour être contre l'autre, mais plus pour se dire comment je reste libre, moi, okay, d'être moi-même.
Une sorte d'espace relationnel
entre
les deux.
Exactement. En fait, et comment je laisse l'autre être libre d'être lui. Et pareil avec les enfants. Et c'est ça qui fait grandir. C'est d'avoir cet espace de liberté. Et ça demande en effet de pouvoir de travailler, de cultiver cette liberté intérieure.
Vous vouliez, alors je vois le temps qui passe, peut-être l'assertivité. Bernard Coulot, vous vouliez nous parler de l'assertivité comme une manière, je crois que c'est vous, une manière de cultiver donc la joie, la bienveillance et autres bonnes nouvelles de la rentrée. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité ?
Disons qu'un jour, j'avais trouvé une définition qui m'avait paru un peu simple et en même temps tellement vraie. Cette définition disait l'assertivité, c'est être ni hérisson, ni paillasson. Alors c'est une image bien évidemment un peu simpliste, mais n'être pas paillasson, c'est-à-dire ne pas me laisser manipuler ou me laisser dominer par l'autre, être capable de faire entendre ma voix, de faire entendre ma pensée, être capable de faire entendre mon être sans être soumis à l'autre. Et pas hérisson non plus, c'est là où ça rejoint la tempérance que nous évoquions tout à l'heure, c'est ne pas être piquant, ne pas être agressif, entre guillemets, ne pas être impulsif, comme le disait Marie tout à l'heure, être dans cette tempérance qui, du coup, installe un lien à l'autre, à la fois dans le respect de moi-même et dans le respect de l'autre. C'est facile à dire, là, au micro, mais c'est un chemin de le vivre tous les jours.
Marie, et puis on finira avec deux, trois mots sur l'éternelle communication non violente, bien utile.
En fait, tout ce qu'on est en train de dire, et c'est pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail, est-ce qu'il faut aller voir un psy ou pas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en lumière les résistances. Tout ça ne peut se mettre en place que si nous levons nos résistances intérieures, et la relation à l'autre, quelquefois, nous renvoie nos propres résistances ou éclaire les résistances de l'autre. Et en fait, c'est ça qui est difficile et qui introduit des tensions dans les relations. Ce sont nos résistances. Donc, lorsque moi, je change...
Les résistances qui, parfois, sont justifiées.
Alors, qui peuvent être justifiées.
Il y a besoin de limites, de cadres.
C'est pas la même chose d'être dans une résistance et de poser une limite. Quand je parle de résistance, c'est vraiment des résistances psychiques, psychologiques, qui font que je n'accepte pas, parce que l'autre bouge, de bouger moi-même. Ou parce que la situation dans laquelle je suis ou les circonstances que je vis me demandent de bouger et je refuse de bouger. Et ça, ça va empêcher de toucher à sa liberté, ça va empêcher de goûter à la joie, justement, parce qu'on va être enfermé, c'est ça, se dépiéger, c'est se dépiéger de ses propres résistances.
Vous pouvez prendre un exemple
Alors, je vais prendre un exemple que vous avez servi durant toute l'émission, Emmanuel, c'est de temps en temps de m'appeler Marie-Aude, alors que je m'appelle Marie, et ça, c'est une résistance. Voilà, moi, j'ai bougé. Et en face, ça ne bouge pas forcément au même rythme, de la même manière. Et c'est formidable parce que ça questionne toujours, ça permet justement de se repositionner et de se dire qu'est-ce qui résiste chez moi ou chez l'autre par rapport à ce mouvement qui a eu lieu chez moi ou chez l'autre.
Bon, ça c'est pour moi. Je vais pas faire le hérisson, je vais être sympa. La communication non violente. On en parle probablement à une émission sur deux, une émission sur deux de cette communication non violente, mais elle est quand même bien utile, si on n'en fait pas une religion. Allez, Marie Binet, si vous deviez nous redonner le triptyque de la communication non violente.
Alors la communication non violente, d'abord c'est
Marshall Rosenberg.
Voilà, Marshall Rosenberg avec tous ses disciples qui ont repris bien sûr cet outil, mais qui est au-delà d'un outil, et Marshall Rosenberg insistait beaucoup là-dessus. Alors oui, c'est une technique au départ.
Mais parlez-nous peut-être des deux marionnettes là. Ça
est dans... Alors c'est le chacal et la girafe. Donc le chacal qui est agressif, la girafe qui est plutôt douce, etc. Et c'est de se dire comment les deux vont pouvoir communiquer. Communiquer en étant dans une écoute bienveillante qui donne la place à chacun. Et du coup, quelles sont les dispositions intérieures à mettre en place pour pouvoir vivre cette communication. Alors, Marshall Rosenberg met quatre étapes, hein, l'observation, l'expression de ses ressentis, de ses besoins et le fait de faire une demande. Donc ça, c'est le côté technique.
Observation, sentiment, besoin.
Voilà, et demande.
Et demande.
Voilà. Mais pour que ces techniques fonctionnent, c'est de se mettre en disposition d'ouverture, d'accueil et d'expression de soi. Parce que vraiment, la communication non violente, elle part de soi pour aller vers l'autre et ensuite accueillir l'autre. Et ça, c'est donner, recevoir dans la communication, malgré nos différences, nos vécus différents et aussi nos ressentis qui peuvent être complètement incompréhensibles. L'objectif, ce n'est pas de se comprendre à tout prix, c'est de vraiment être à l'écoute dans un accueil. Et c'est pour ça que je dis que c'est une disposition du cœur. Ça va au-delà, au départ, on est dans la bienveillance et après, on est dans l'ouverture à l'autre.
Eh ben merci d'avoir lancé ainsi la rentrée. On espère pour chacun pleine de joie, de bonté, de bienveillance et de tempérance. Je rappelle le titre d'un des livres que vous avez écrit, Marie Binet, que vous nous conseillez ce matin, Grandir en couple, c'est paru aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.